à l'heure, c'est au fond quel est pour lui dans son périple d'écrivain, parce que c'est un écrivain qui a amené beaucoup de choses. Quelle place vient prendre ce livre qui est un ensemble de textes, une sorte de, on pourrait dire, d'une assez grande dispersion institutionnelle et d'intérêt. Et vous verrez, parce que vous allez l'acheter tout de suite, qui a une certaine unité qui filtre, en tout cas, qui est la spécificité, je vous le dis d'emblée, je vous donne la conclusion, comme ça après on peut commencer, qui est la spécificité de son rapport et à la psychanalyse et à la philosophie. C'est-à-dire, c'est là où on a possibilité de voir beaucoup de choses. Alors, Bernard Basse, et tout le monde le sait, il est agrégé de philo, c'est un des grands enseignants qui est un tout petit peu à la retraite, mais il continue, docteur en philo, et il a donc enseigné à Cannes, et à sa droite, d'accord, Francis Fischer, qui lui aussi, décidément, quel beau monde, hein, est agrégé docteur en philosophie, qui lui a fait une thèse, hein, c'est bien ça, sur Heidegger et la question de l'homme, je ne me trompe pas, et qui a écrit pas mal d'articles, d'ailleurs assez remarquables pour une autre fois, et en particulier qui a écrit des choses récentes sur Philippe Lacoulabarthe, hein, à partir de ce qu'il dit, qui est un homme en même temps de théâtre. C'est juste,
voilà.
Il y a de ça. Voilà. Et il enseignait la philosophie à Marc Bloch, et il enseigne la philosophie aussi à l'Université populaire de Strasbourg. Alors écoutez, moi je vais vous présenter en quelques mots un peu tout ce que Bernard a amené. Je vais vous donner quelques petits traits peut-être sur la question d'une question un peu traditionnelle et qui du coup ne l'est pas, qui est le rapport psychanalyse. Oui, il est très dangereux. Lui, c'est un dangereux. La question psychanalyse-philosophie-politique. Et alors, je vous propose, après, une forme qu'on va essayer de donner, qui est une forme qui m'a toujours beaucoup fasciné dans les thèses de philo, qui est la forme de la disputatio, comme ça, c'est-à-dire comme ça, d'essayer un peu de poser des questions et d'essayer même de temps en temps d'y répondre avec des associations qui n'ont rien du tout à voir avec ce qui a été posé. Mais en tout cas, quelque chose, hein, d'un mouvement comme ça un peu dialectique. Donc je vais juste vous dire en quelques mots un peu les éléments qu'il faut connaître et après je leur donnerai la parole, enfin un échange, et je ramènerai peut-être quelques éléments à propos de la question de la psychanalyse. Alors d'abord, dans l'ordre inverse, Bernard a écrit récemment un très gros travail sur la voie déliée, que je vous conseille, qui est un travail, il y a très peu de choses écrites sur la question de la voie, justement à cheval, hein, on pourrait dire, entre l'histoire philosophie et psychanalyse. Je vous conseille aussi Le rire inextinguible des dieux. Alors on rigole pas tout de suite, mais après un certain temps on y arrive. Sur le plan de son rapport à la théorie analytique de la chose à l'objet, qui est, je pense que ça peut, c'est Jacques Lacan, hein, c'est ça, qui va traverser de la phénoménologie, la question de l'adoration des bergers, ou c'est la question de la dignité d'un clair-obscur, c'était quelque chose comme ça. Et alors un classique, il faut absolument aussi que vous fournissiez, c'est Le désir pur, où là, c'est très intéressant de voir son rapport parcours philosophique, donc dans les parages de Lacan, et où vous voyez un peu le rapport, justement, comment un concept, on pourrait dire, philosophique, comment a été travaillé, dilapidé, dispersé, repris, la notion du désir dans la question de la psychanalyse. Et il y a un texte, au départ, il y avait un texte sur Descartes, hein, et les fondements de la psychanalyse. C'était aux éditions Navarin au départ. Hein,
c'est ça.
Alors, va sortir un texte, ça je vais le dire tout de suite, puis là tu ne l'as pas sorti, qui n'a rien à voir avec ce qu'on va travailler aujourd'hui, qui s'appelle Problématique philosophique, où il reprend, si j'ai bien compris, l'ensemble des travaux qu'il faisait avec les étudiants,
sous
forme du parti. Voilà, des corrigés. Voilà. Donc, une longue histoire, et ce que je voudrais. Hein, important, on en reparle après. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir une chose, c'est que le dialogue ou la conflictualité entre la philosophie et la psychanalyse est grande. Dans ce livre, il parle de la question de la correspondance, mais je peux vous dire que de ce côté-là, il y a d'énormes difficultés, et en particulier, autant les psychanalystes crient au discours du maître ou des maîtres en ce qui concerne la philosophie, autant les philosophes ont tendance à taxer les psychanalystes d'empiristes dégénérés ou de praticiens. Ça fait rire, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, alors c'est intéressant, entre ces deux positions, qu'on peut se rendre compte que Bernard arrive, je veux dire, à amener une position personnelle par rapport à cette dialectique. Je ne sais pas si on peut utiliser tout à fait le mot. Mais vous allez voir dans le dialogue qui va se passer tout à l'heure, sur certains points, il a justement une position et une position originale. Puisque vous savez que, d'abord, c'est un bon lecteur de Freud, de ce point de vue-là, où lui-même, hein, Freud a été pris dans son rapport à la philosophie, en particulier dans un texte qui est l'intérêt de la psychanalyse, où il essaye de se positionner assez difficilement, d'ailleurs, mais où on voit, et ça c'est un truc constant, qui est la formation philosophique des psychanalystes apparaît indispensable. On ne sait pas rendu compte. C'est pas une formation médicale. C'est pas la formation médicale qui sera essentielle de ce côté-là. Ensuite, bon, je le dis en un mot, en ce qui concerne Lacan, et c'est là où surtout Bernard a beaucoup de choses à amener, c'est le fait que Lacan, il a passé une grande partie de la guerre d'ailleurs à travailler la philo. C'était pas plus stupide. Et ce que je veux dire, c'est que le rapport de Lacan, qui utilise un certain nombre de concepts philosophiques qu'il a, et il va en faire un miel personnel, qu'il va piller, n'est-ce pas, un certain nombre de fois, il va créer un certain nombre de nouveaux opérateurs, et le travail, justement, vous allez voir, de Bernard, c'est justement, en même temps, de montrer, si on peut dire, l'historique d'un concept, et ensuite, en même temps, de montrer l'usage spécifique que Lacan va en faire. Donc, bon, tout ça pour dire que ça vaut la peine, même si dans un premier temps, il faut absolument que vous essayiez de vous concentrer sur ce livre, où il y a en même temps un certain nombre de textes qui sont des textes un peu difficiles, mais comme c'est un enseignant très rigoureux qui prend son temps pour développer, très honnêtement, à la relecture, puisque on avait pris le manuscrit au départ, je me suis rendu compte qu'à une deuxième lecture des choses, on arrive, il y a des choses qui sont éclairantes, et surtout tout le volet, on va en parler, le volet du rapport aux politiques et à la société d'aujourd'hui, est extrêmement vivant. Voilà, alors donc je vous propose de lancer les débats, et puis on a prévu un certain nombre de questions. On peut le dire, vous y allez tranquillement. Alors, est-ce que tu peux là, déjà quand même lancer les choses en disant un peu quel est ton sentiment par rapport à ton périple d'écrivain cette fois-ci, par rapport à ce texte-là, et au fond pourquoi tu as maintenu comme titre le titre d'un article qui est presque le plus ancien.
Répondre à ces questions, donc je veux remercier ton succès et toi, Jean-Richard, de venir assurer la promotion, j'allais dire, de ce bouquin. Je dois te remercier, toi, Jean-Richard, particulièrement parce que ce livre est dans la collection que tu diriges et il faut savoir que ce n'est pas à ma demande que Jean-Richard a décidé de publier ce texte, c'est à sa demande et je vais me chercher moi. Et j'en ai été évidemment très, très honoré. Alors, ce texte, effectivement, est un ensemble de textes, conférences, d'interventions, de choses de ce genre, d'essais, petits essais. D'une certaine manière, c'est assez hétéroclite, mais il y a malgré tout quand même une certaine, si ce n'est une continuité, il y a une certaine unité malgré tout, c'est une unité problématique, c'est la problématique indiquée par Jean Ricard, la relation entre philosophie et psychanalyse. On va reposer ça, je pense, encore tout à l'heure. Dans le cas présent, il se trouve que le livre n'était pas destiné à recevoir ce titre qui est le titre du dernier, enfin, ce qui est donné comme dernier chapitre, qui, comme je l'ai dit, est en réalité le chapitre le plus ancien. Mais j'avais d'abord imaginé un titre pas du tout racoleur. Bon, vous seriez beaucoup moins nombreux si vous aviez le titre. Qui était adresse de la philosophie à la psychanalyse, ça faisait un peu comme quoi. Bon. Et donc l'éditeur RS m'a signifié justement qu'il trouvait ça pas très porteur et a décidé de prendre un titre plus accrocheur en choisissant le titre de cette conférence que j'avais faite, certains s'en souviennent, en 1989. Exactement en juillet 1989,
c'était pas 1700,
oui. Mais c'était
pas loin,
c'était
pas loin.
C'était pour le bicentenaire de la Révolution française. Un groupe psychanalyste à Strasbourg faisait un petit colloque et j'avais en effet listé une conférence qui avait été diversement reçue, intitulée. C'était pas ce genre de question, c'était les psychanalystes sans culotte, et j'avais d'ailleurs mis le trémignon entre parenthèses, voilà, volontairement. Disons que certains ont pris ça à l'époque, peut-être comme une déculottée. Voilà. Bon, mais là, on a un petit peu modifié la chose pour que ça reste quand même acceptable. Donc, c'est ce qui explique ce titre. Mais effectivement, le volume comprend des choses d'orientation, en même temps d'orientation différente, mais je crois animée effectivement par la même intention que vient de signifier Jean-Richard, et que je crois qu'on va pouvoir en parler maintenant.
Alors, je suis le.
Allez, c'est pas marche, non, ouais.
Je suis le philosophe de service. Donc, je vais prendre une entrée, un chemin qui reprend ce que vous venez de dire, titre un tout petit peu provocant, mais et ce qui a annoncé quand même une unité générale et sans doute des qualités que j'aimerais d'abord relever. Donc, je partirai de là. Je trouve que ce livre qui vient après tous ceux que Jean-Richard a indiqués au préalable montre assez nettement un chemin relativement précis, insistant, qui permet de situer les autres textes du plaisir pur jusqu'à la voie de Villiers et d'autres textes encore. Et c'est un tracé, comme tu l'as rappelé, qui passe, donc là je ne vais plus répéter, c'est écrit. Qui passe entre la psychanalyse et la philosophie, et qui donne, je dirais, à la parole qui se joue ici, une place et une tonalité assez particulière, dans la mesure où dans tous ces textes, et en particulier dans ceux-là, et c'est vrai pour la plupart des autres, on entend d'une certaine façon ta voix, dans la mesure où ce sont d'abord des textes qui ont été donnés à entendre. Et on retrouve cette dimension dans l'écrit et dans l'ensemble des écrits, une sorte de Stimmung et la voix qui est un de tes thèmes favoris convient à ce que furent d'abord ces je crois que ce sont 12 ces 12 textes, cette douzaine de conférences qui étaient d'abord orales, qui s'échelonne les 20 dernières années, depuis 89, donc, puisque là, c'est le signe, du signe comme ça de la Révolution. Sans doute, le contexte a-t-il changé, non pas seulement depuis la Révolution française, mais aussi depuis 1989. On suit d'ailleurs le mouvement de ces changements, peut-être que nous pourrons en parler un tout petit peu. Et ce qui, évidemment, on fait là, je dirais, la particularité. Il y a vraiment deux caractéristiques. Je voudrais insister sur ces deux caractéristiques des textes de Bernard. La première caractéristique, c'est que ces textes sont vraiment toujours adressés. Ils gardent la marque de cette adresse. On entend, comme je le disais, la voix. Et tu en fais l'objet de ton avant-propos qui s'appelle justement correspondance. Correspondance en un double sens, dans la mesure où il y a ce qui s'appelle et se répond, mais aussi ceux qui s'adressent comme les lettres envoyées, envoyer la psychanalyse à la philosophie, de la philosophie à la psychanalyse, et dont on ne sait jamais dans cet envoi comment elles arrivent et si elles arrivent, et dont on ne sait pas après coup si vous lancez ce débat, si ça va arriver, à qui ça va arriver et comment ça va arriver. La deuxième caractéristique, c'est, et je crois qu'il faut, faut toujours le dire, mais vous l'avez déjà souligné aussi, c'est la clarté d'exposition. Je crois que c'est toujours un véritable plaisir de lire Bernard, parce que la conceptualité utilisée est parfaitement explicitée. C'est évidemment le travail rigoureux du professeur, mais c'est aussi la probité du chercheur. Alors, en ce qui concerne le travail rigoureux du professeur, donc, on ne peut que revenir à ce texte qui va apparaître, qui s'intitule donc Problématique philosophique aux éditions HK, avec un premier développement sur la dissertation de philosophie, d'ailleurs, pour les professeurs ou les élèves qui sont aussi dans la salle, et des extraits de ces dissertations, en tout cas sous forme d'essai. Je ne sais pas comment on fait ça, dont on pourrait lire quelques-uns comme respecter l'autorité, ou encore la honte est dans les yeux, j'ai relevé ces deux-là parce qu'il renvoie déjà à ton côté un peu lutin, tel qu'il apparaît souvent dans l'ensemble de tes textes. Alors, c'est vrai que c'est le professeur, mais je crois que c'est quand même le chercheur. C'est moi, j'ai vraiment rencontré le chercheur dans ce texte-là, c'est-à-dire quelqu'un qui est pris par une passion et qui est pris par l'inquiétude du questionnement. D'ailleurs, justement, dans la dissertation, il parle de cette inquiétude du questionnement. Et souvent, les textes, parce qu'ils sont adressés, ont quelque chose comme une attente organisée. J'appelais ça une dramatisation l'autre jour quand on en discutait. On attend la chute, il y a un ensemble d'obstacles. On cherche vraiment à savoir comment ça va finir. D'ailleurs, comment ça va finir. Donc, cette affaire-là, on va y revenir. Et je pense que c'est un vrai plaisir de la lecture. Chacun des textes est un plaisir de la lecture parce que chacun des textes soulève véritablement une énigme. Et puis à la fin, bon, bah, c'est pas pour autant qu'on sera satisfait. Mais cette non-satisfaction est aussi quelque chose.
Il y a une chute.
C'est très bien qu'il y ait une chute. Alors, cette passion inquiète et en même temps rigoureuse, tu l'as mis, comme le disait Jean-Richard, en lumière dans l'analyse des pulsions, dans l'analyse des affects, par exemple la peur, l'angoisse, etc., aussi dans tous les autres textes. Et tout cela me conduit, au fond, je vais assez vite pour aller au cœur du propos. Tout cela me conduit finalement à ce que je pense être le lieu véritable, du moins quand j'ai lu ce texte-là, à partir duquel se fait le tracé de ce parcours. Et je dirais que ici, en tout cas, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais que je dirais que ce lieu, c'est celui des Lumières. C'est le 18e siècle, c'est-à-dire au fond, c'est le lieu de la raison, mais ce lieu où la raison se questionne elle-même. Donc, c'est pas simplement le philosophe qui parle, je pense que d'une manière ou d'une autre, la psychanalyse a quelque chose à dire à ce moment-là, puisque ce moment qui est aussi celui de la Révolution française reste néanmoins celui des Lumières, mais je l'entends peut-être déjà, je dirais, accordé à la psychanalyse dans la mesure où ce soleil de la raison est aussi un soleil noir, c'est-à-dire dans la mesure où la raison est amenée à se confronter à, je dirais, l'obscurité de sa propre origine. Et en tout cas, là, il nous convient à elle-même. Et cette obscurité-là, je crois que c'est celle-là qui t'intéresse. Alors, le fait qu'on se trouve dans ce moment-là, 1789, mais c'est un moment de la raison, mais c'est le moment critique de la raison. Moi, je dirais ça comme ça, c'est-à-dire, et du coup, au fond, les deux grandes références de ton livre sur deux axes, à mon avis, assez nets, sont la première référence, c'est Kant, qui domine largement toute la première partie de ton livre, qui traite du savoir, et la deuxième partie, alors étonnamment, c'est, disons comme ça, c'est Sade. On pouvait l'attendre, ça jusqu'à un certain point, dans la mesure où, malgré tout, la référence à un certain commentaire que fait Lacan de Sade, je dirais, domine l'ensemble des questions politiques et sociales telles que tu les développes. Enfin, j'y reviendrai, je le rappelle peut-être un peu plus tard. Alors, pour prendre voilà où nous en sommes, c'est-à-dire ce moment critique, Kant aussi, la question du savoir, qui est aussi, ce qui t'intéresse, je crois, c'est la question de la limite, de la limitation en général, peut-être la question de la finitude, mais je ne voudrais pas la soulever à partir de là. Cette première partie sur Kant traite véritablement du problème du savoir et de la manière où, à propos du savoir, se détermine et la philosophie et la psychanalyse, et du coup aussi les rapports entre philosophie et psychanalyse, pour préciser un petit peu les choses. Et donc, je crois qu'il est assez intéressant de partir d'un texte sur philosophie et psychanalyse dans le conflit des facultés, parce que tu fais référence à ce texte de Kant à propos du conflit des facultés, où tu places la philosophie et la psychanalyse dans ce que Kant appelle les facultés inférieures, c'est-à-dire non pas parce qu'elles seraient inférieures en valeur, mais parce qu'elles correspondent à la dimension critique, c'est-à-dire non immédiatement institutionnelle. Les facultés supérieures, c'est du droit, des sciences dures, etc., étant plutôt les facultés dogmatiques. Tu situes à ce moment-là la philosophie et la psychanalyse comme des facultés critiques. Ce qui te permet, s'agissant aussi bien d'ailleurs de la psychanalyse que de la philosophie, de mettre en cause un certain nombre de gestes, d'attitudes, là on parle du savoir, à savoir penser qu'il n'y a pas à s'interroger sur ce savoir-là, poser ce savoir parfois comme un matérialisme à accepter en tant que tel, ou encore la physique en tant que telle, c'est-à-dire la philosophie elle aussi a été trouvée dans ce savoir, c'est ce que les psychanalystes souvent reprochent aux philosophes. Et du coup, aussi bien le philosophe que le psychanalyste a donc un appel à sa portée critique. En même temps, les deux sont reliés dans une dimension particulière. Alors j'aurais bien aimé, si c'était possible, j'y arrive enfin, si tu pouvais expliciter à la fois comment, par rapport à la science et par rapport au savoir, philosophie et psychanalyse sont amenées à se situer, et à se situer aussi l'une par rapport à l'autre. Voilà.
Alors, petite question réelle.
Oui, ça fait beaucoup. Alors je vais commencer par dire quelques mots sur le rapport entre philosophie et psychanalyse, puisque, comme je le disais tout à l'heure, mes voisins l'ont rappelé, cet ouvrage s'inscrit dans ce que j'ai appelé la correspondance entre philosophie et psychanalyse, les adresses au sens parfois même d'injonction entre philosophie et psychanalyse, comme il y en a eu beaucoup, il y a d'autres auteurs, je ne suis pas le seul philosophe à parler de ça. Et je pense que je voudrais préciser, c'est justement quand le philosophie et le psychanalyse, s'il y a de la correspondance au sens d'adresse et d'éventuelles réponses, il n'y a pas à proprement parler de correspondance, il n'y a rien de correspond. On a affaire à deux choses qui sont différentes, qui sont même radicalement différentes. Lacan parlait à ce propos, non pas tant d'antinomie entre philosophie et psychanalyse, parce que l'antinomie recèle encore la possibilité d'un dépassement dialectique, donc une inscription dans la procédure philosophique elle-même. Lacan parlait plutôt d'antipathie. Alors comment, c'est un terme qui mérite, je crois, un petit peu qu'on s'y arrête. Antipathie ici ne signifie pas une allergie réciproque, encore qui existait. Il y a l'allergie de la psychanalyse, et la psychanalyse de la philosophie. Mais c'est évidemment pas ça que visait Lacan. en parlant d'antipathie, je crois que ce n'est pas le pathos dans cette affaire-là, ce sont deux manières, je dirais deux manières différentes, entre philosophie et psychanalyse, deux manières différentes d'être affecté par quelque chose que Lacan appelle le réel, c'est-à-dire en même temps l'impossible de la jouissance. C'est deux manières d'en être affecté. Il y a une manière philosophique qui a été d'ailleurs stigmatisée par les psychanalystes, notamment par Freud déjà, mais aussi par Lacan. C'est-à-dire que le philosophe, dans la tradition métaphysique, finalement, a voulu boucher le vide du réel, l'impossible de la jouissance, a voulu colmater ça par la prétention d'une instance suprême, ce qu'en philosophie on appelle un inconditionné absolu, auquel il serait possible d'accéder. Alors que cet inconditionné soit maintenant le bien chez Platon, le dieu d'Aristote, le dieu de la pensée chrétienne, le sujet cartésien, que sais-je encore, ce sont les différentes figures de ce à part quoi la philosophie a colmaté le trou qui ouvre en fait sur un vide insondable, sur quelque chose qui est inaccessible. C'est la manière philosophique de se rapporter à cette affection du réel. La manière psychanalytique est plus différente puisqu'il s'agit de se confronter à ce réel, si tant est que ce soit d'ailleurs possible. Il s'agit en quelque façon d'assumer la possibilité de la jouissance. Et on va sans doute en reparler, je pense, plus loin, c'est-à-dire non pas simplement d'organiser les désirs qui nous animent tous, voilà, de les organiser de la manière qui soit la plus confortable, mais d'apercevoir que au-delà de ce désir, il y a une visée qui est ce que la psychanalyse appelle la jouissance, concept qui d'ailleurs a aussi son sens en philosophie, c'est-à-dire la pure présence à soi, sans distance. Voilà, ça serait ça aussi. Si ce n'est que la pure présence à soi sans distance n'est pas quelque chose, comment dirais-je, qui serait l'accomplissement de la joie, comme on aurait pu dire certains mystiques, mais c'est en règle générale plutôt l'accès à quelque chose d'absolument horrifiant. Voilà. Alors, sur cette dimension de l'œuvre, on en parlera peut-être plus loin en écho à ce que tu as dit sur ça. Encore que, moi-même, tu parlais de ça, vu les coordonnées de l'affaire. Mais je tiens quand même à dire que dans ce bouquin, je n'ai pas resservi pour la xème fois les analyses que j'avais déjà faites sur le rapport entre Kant et ça. Alors, je veux quand même encore préciser, c'est que si, en réponse aussi à une remarque que tu as faite, effectivement, les psychanalystes ont pu avoir à l'égard de la philosophie une attitude paradoxale, qui était à la fois de la réduire cette philosophie à quelque chose qui échappait à l'essentiel, voilà. On sait d'ailleurs se servir même des catégories cliniques pour dire de temps en temps les philosophes sont obsessionnels, d'autres jours ils sont hypnotiques, etc. Oui, par nous, toute la nomenclature clinique qui est passée, ou à peu près. Mais en même temps, il y a le texte que tu citais sur l'intérêt de la psychanalyse, il y a cette remarque importante de Freud sur les grands philosophes, les philosophes d'une grande trempe, quelque chose comme ça. Donc tu dis que c'est par hasard s'ils sont aussi peu nombreux, mais on a là quelque chose d'utile à apprendre. Lacan, de son côté, s'il a pu, avec l'humour que vous connaissez, s'il a pu épingler les philosophes en les affilant, sans vraiment être qualificatif, assez rigolo, Lacan a parlé de quelque chose de très important, hein, je vais vous souvenir. Dans le séminaire sur l'identification, qui est toujours parmi d'ailleurs, je crois, Lacan parle à un moment, en s'adressant à son auditoire qui est fait d'analystes,
grand philosophe, c'est pas pour rien, dit-il, c'est parce que on trouve chez eux une expérience indépassable. Il dit, s'agissant de l'expérience de Deleuze, c'est une expérience indépassable. C'est que Lacan se rend bien compte que les philosophes se sont portés, je dirais, dans le mouvement, dans la motion désirante vers l'absolu, se sont peut-être fourvoyés dans une illusion, finalement dans une illusion, mais ils ont malgré tout porté le désir au-delà simplement de la simple satisfaction des, de ce qui paraît confortable ou agréable dans l'existence. C'est pour ça qu'ils parlent vraiment d'une expérience indépassable, c'est quand même pas rien à propos des philosophes eux-mêmes. Alors, la relation qui elle m'intéresse entre philosophie et psychanalyse est dès lors double ou triple d'une certaine façon. Disons d'abord ceci, ce qui m'a intéressé, c'est de trouver dans les textes psychanalytiques, ça c'est un travail qu'effectivement j'ai commencé à utiliser pas, de trouver dans les textes psychanalytiques des sources philosophiques explicites, parce que Freud par exemple cite Karl qui le cite explicitement, bon, ou des sources philosophiques implicites. On voit que tel concept qui appartient à tel auteur, topiquement déterminé, même s'il n'est pas cité, vient travailler le texte de Freud ou le texte de Lacan ou d'autres encore, maintenant tous les données. Donc, je trouvais intéressant de voir en quoi la psychanalyse avait ici besoin de recourir à un moment à la conceptualité, philosophique. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ce qui fait le double mouvement, ce qui m'a également intéressé, c'était de voir comment la psychanalyse elle-même avait des effets sur la philosophie. Alors je ne parle pas simplement des effets de recul ou de dénégation, qu'on a trouvé chez un certain nombre d'auteurs, notamment en France d'ailleurs, mais je parle souvent de ceux qui ont travaillé la psychanalyse. Il y a eu un effet de retour, c'est-à-dire une manière pour la philosophie de reprendre complètement ses propres concepts, parfois les reformuler, de les redéplacer, de les réinsérer autrement dans une structure de pensée. Il y a une conférence dans ce volume qui synthétise le travail que j'avais fait à l'époque dans le bouquin que tu as cité, mais c'est une conférence que j'avais faite à Naples où j'avais été invité pour l'anniversaire de la fameuse lettre de Freud à Fries, celle de septembre 1997, voilà, le moment où Freud décide d'abandonner sa neurotica et de passer à autre chose, c'est la psychanalyse. Hein. Et donc j'avais été invité à causer un petit peu dans ce cas-là. Et j'avais du coup concentré les choses en effet sur Karl, à propos du transcendantal. Ouais, je ne vais quand même pas abuser de notre patience. Mais on sait que, pour le dire en quelques mots, que la révolution kantienne a consisté justement en une critique de toute la métaphysique qui a précédé. C'est un des premiers qui finalement a montré que la pulsion, la méchetré, comme on dit, même radical que Trive, hein, il dit que la pulsion qui anime l'esprit, notamment bien sûr chez les philosophes, cette pulsion les conduit à penser l'absolu, mais car on dit là, leur erreur, leur illusion, c'est de convertir ce qui est là en objet de pensée, de convertir cela en objet de connaissance. C'est ça l'illusion, c'est de croire qu'on pourrait connaître, qu'on pourrait saisir par le logos philosophique, que l'on pourrait saisir l'absolu comme un tel objet de connaissance. Et Kant en fait sévèrement la critique. Et du coup, ce qu'il montre, c'est que un certain nombre de concepts, et disons pour aller vite, un certain nombre d'idées rationnelles auxquelles recourt la philosophie, ces concepts ont un statut, dit-il, transcendantal, c'est-à-dire que ce sont des conditions de possibilité, ce qu'il appelle des conditions de possibilité a priori, de la connaissance, de la pensée, de l'activité praxique, enfin, politique, etc. Donc, il pose la distinction entre ce qui est accessible, ce qui est connaissable dans l'ordre de l'expérience et les conditions de l'expérience de connaissance, de l'expérience du désir, de l'expérience de volonté, etc. Bon. Et il recherche ces conditions qui ont, elles, ce qu'on appelle le statut transcendantal. Alors, ce qui m'avait frappé, ce que j'ai rappelé dans cette conférence napolitaine, c'est justement que on voit chez Freud lui-même ce que j'ai appelé la tentation du transcendantal. Dans bien des occurrences, hein, chez Freud, il se réfère à Kant, il utilise des concepts kantiens d'une manière pas toujours très rigoureuse, mais on ne va pas demander, c'est pas les lettres, quoi, voilà, bon.
Il n'était pas en prépa.
mais il utilise ces concepts, et en même temps, il recule dans l'usage qu'il en fait, parce qu'il se dit, ça c'est philosophique, simplement, ça n'est que philosophique, et donc, Freud essaie de substituer à cela une recherche véritablement empirique, ce qui l'amène lui-même à produire des véritables mythologies, que ce soit la mythologie édipienne, que ce soit la mythologie du meurtre du père, ou des choses comme
ça. Père de la Horde.
Père de la Horde, c'est très bien qu'il est en train de produire là un mythe, mais ça lui permet de faire comme s'il y avait une origine empirique à ce qu'il recherche, voilà, pour ne pas dire que le fondement de ce qui l'intéresse est transcendantal. Et en même temps, je crois que c'est le point qui est le point sur lequel bute la théorisation freudienne. Et on peut montrer, je le suis un peu à d'autres occasions, mais voilà, on ne coupe pas dans le bouquin, comment Lacan lui-même est, je crois aussi, travaillé par la procédure transcendantale, et qu'un certain nombre des concepts lacaniens ont un statut simplement transcendantal. Bien sûr, il ne faudra pas avancer. Le retour, je disais, il y a un effet de retour sur la philosophie. En même temps, l'effet de retour, c'est que on ne peut plus penser transcendantal simplement comme une idéalité transcendantale, quelque chose d'ambigu, parce que Derrida a appelé du quasi-transcendantal ou du simili-transcendantal, quelque chose qui est un peu entre l'empirique et le transcendantal, un statut un peu incertain, mais c'est vrai qu'on trouve ça chez Lacan. Juste une dernière chose par rapport à ce que tu as dit, après on peut revenir à la question.
Je voudrais te citer sur ce que tu viens de dire, mais
t'es rare. Je termine juste une chose. Il y a aussi historiquement une coïncidence, quand même, pas une simple coïncidence, une concomitance, justement, historiquement quelque chose qui doit retenir. L'attention, c'est que la période de la naissance, la gestation, disons, de la psychanalyse, là, disons, de la première moitié du XXe siècle, pour faire vite, cette période est en même temps la période dans laquelle en philosophie, on commençait à reprendre véritablement la question de la fin de la philosophie, d'un épuisement du philosophique, c'est-à-dire d'un épuisement d'une certaine métaphysique. L'auteur, bien sûr, pour quelques leçons du six, c'est Heidegger, c'est pas le seul, mais c'est le principal. Et que, même s'ils se sont quasiment ignorés, Heidegger et Freud, il y a quelque chose qui est comme ça, un petit peu en miroir. Voilà. Et donc, la philosophie, ce qu'on appelle aujourd'hui philosophie, disons chez les philosophes sérieux, on en trouve, ça n'est plus la métaphysique scolastique, ni même la métaphysique dogmatique du début du XVIIIe siècle. Les choses ont changé.
Je voulais juste te citer là. À propos de l'introduction, quand tu dis tu t'adresses à Kaltenberg, à Vanier et à Léon Dancon, tu les trois confirment que dans cette correspondance, que c'est à une le mot, entre philosophie et psychanalyse, les lettres, comme nous l'a appris Lacan, finissent toujours par arriver à leur destinataire. Reste à souhaiter que nombreux soient les autres destinataires de ces adresses et qu'ils ne les tiendront pas pour des maladresses. Ce que je veux dire, ce que, moi qui me frappe par rapport à ce que tu viens de dire par rapport à Freud, c'est qu'il y a un point quand même qui mériterait qu'on reprenne, c'est comment tu te positionnes au fond, parce qu'on a tout à l'heure Fischer a parlé de, par rapport à, en particulier de Kant hein, et par rapport à Sade, mais au fond comment tu te situes par rapport à la question de la découverte de l'inconscient, c'est-à-dire justement comment la découverte freudienne de l'inconscient se différencie au fond de la question de l'inconscient telle qu'il pouvait fonctionner dans la tradition philosophique. Parce que là, ça permettrait aussi peut-être de rentrer quelque chose dans le débat de la question du transcendantal, etc. Bon, ça c'est un point.